nous pouvons vraiment remercier le Seigneur. Mais comme notre frère vient de le dire, notre privilège est que notre Seigneur nous ouvre son cœur. Et c'est vraiment étonnant. Quand nous chantons des chants, comme ça a été dit, on ne va pas simplement les fredonner comme ça, les chants. Allez, on te prend un autre chant. Allez, hop. On a des... Et de même pour le témoignage. Non. Savez-vous une chose? La communion de la première seconde jusqu'à la dernière seconde de la réunion est tellement importante, tellement centrale pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Déjà, dans le chant, un chant 374. Donc, les prophètes ont voulu voir ce qui se passe dans ce plan. C'est le chant allemand 374 que nous n'avons pas en français, mais aujourd'hui, ce dessin est révélé. Et le Seigneur nous laisse voir quel est le désir de son cœur. Et c'est tellement beau. Christ seul et l'Église. C'est un tel privilège. Christ seul et l'Église. Et les versets que nous avons lus, nous avons la rémission en son sang, selon la richesse de sa gloire, qui nous a fait. Il n'a pas cité la référence. Il nous a... Voilà, c'est le verset 7-8. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. Qu'il avait formé en lui-même. Formé en lui-même, c'est surprenant. Mais il nous fait connaître cela. Et comme cela a été dit hier soir aussi déjà. Oui, les premiers chapitres. Deux premiers chapitres d'Éphésiens posent le fondement théorique pour que nous sachions. Il nous faut savoir des choses. Aujourd'hui, il s'agit du salut, il faut le savoir. Mais je vous dis, il ne s'agit pas d'une connaissance dans notre intelligence, mais d'une connaissance profonde dans notre cœur. Pourquoi le Seigneur nous laisse savoir ce qui est dans son cœur? Pourquoi? Afin que son désir, le désir de son cœur devienne le désir de notre cœur. Pas simplement pour que nous en parlions. Je n'aime plus le mot de thème. Aujourd'hui, nous n'avons pas un thème duquel nous parlons aujourd'hui, sur lequel nous échangeons nos opinions. Qu'en penses-tu? Non, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un thème. Mais nous avons de la communion dans le Dieu vivant, en lui et entre nous. Et il aimerait écrire cela dans nos cœurs. Hier, nous avons lu un verset de Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose dans ton cœur. Et maintenant, la question est la suivante. Mais comment faisons-nous cela? Croyez-vous que nous soyons capables de garder nos cœurs? Quelle activité devons-nous faire? De quelle pratique avons-nous besoin pour garder notre cœur jusqu'au dernier jour? Quelques chapitres plus loin. Donc, Proverbe 23, au verset 26, nous avons la clé. Il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et j'ai l'impression que le Seigneur nous dit aussi à nous ce matin. Mon fils, donne-moi ton cœur. Afin que je puisse y écrire. Afin que le Seigneur lui-même puisse inscrire dans nos cœurs. Et comme on l'a vu dans Éphésiens aussi, c'est Éphésiens 1, le verset 17. Nous avons besoin de cet esprit. Un esprit de sagesse et de révélation. Pour le connaître ou dans sa connaissance. Et j'ai l'impression que cette connaissance va tellement plus profondément que le simple fait de savoir quelque chose. Non, c'est trop peu cela. Mais de le connaître, lui. C'est un privilège. Et quand nous lisons aujourd'hui les versets Éphésiens 2, de versets 1 à 6, ça devient personnel. Donc les deux premières paroles sont « vous ». Vous, chacun de nous individuellement, toi, moi, tel frère, telle sœur, qu'on soit écolier ou qu'on soit déjà retraité, chacun individuellement est ici interpellé. Oui, vous aussi. Lisons ensemble les versets, tous ensemble. Donc, Éphésiens 2, les versets 1 jusqu'à 6. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 Vous aussi. En allemand, il y a le un aussi. Ces versets témoignent de notre salut personnel. C'est notre témoignage de ce que le Seigneur a fait avec chacun individuellement. C'est son œuvre. Et ce qui m'est important ce matin, il s'agit de notre histoire personnelle. Mais comme nous l'avons vu également hier, le Seigneur fait tout avec un but, en vue de son dessein. Et c'est aussi un mensonge de ce temps que le salut soit déjà suffisant. Oh, nous pourrons louer le Seigneur pour chacun qui est sauvé, pour chacun qui est racheté, pour chacun pour lequel le Seigneur a versé son sang. Louer le Seigneur pour chaque frère, chaque sœur. C'est une telle victoire que le Seigneur a obtenu. Mais comme on l'a entendu hier, le salut est en vue d'un but. Pourquoi sommes-nous sauvés? Savez-vous, quand l'homme pose une question, il a besoin d'une réponse. Il est important que nous ayons cette conscience. L'homme déchu cherche. Il pose des questions. Il a besoin de réponses à des questions centrales de la vie. Chaque homme cherche, veut être en rempli, n'arrive pas à être au clair avec cet enseignement. Et il est écrit aussi ici, selon le train de ce monde, une question que Pilate a déjà posée il y a longtemps, se pose toujours à nous-mêmes. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et l'homme a besoin d'une réponse à une telle question. Elle est tellement centrale que nous ayons cette réponse clairement enracinée au plus profond de nous-mêmes. Et dans Jean 17, verset 17, le Seigneur dit lui-même, sanctifie-les dans mes paroles. Ta parole est la vérité. Et aujourd'hui, nous pouvons louer le Seigneur pour sa parole dont nous jouissons dans sa maison aujourd'hui, qu'il nous dit aujourd'hui. Il n'a pas arrêté de parler jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas cessé. ce ne sont pas des choses dont nous parlons aujourd'hui. Et il est vraiment saint, S-A-I-N, que nous voyons quel est ce privilège que nous avons. Comme dit Éphésiens, nous devons être à la louange de sa gloire. Oui, je peux dire ce sont des petites raisons. Non, c'est entre guillemets, mais ce sont de bonnes raisons pour louer le Seigneur et pour lui dire merci Seigneur parce que tu parles jusqu'à ce jour. Savez-vous, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est surprenant. Et où sommes-nous aujourd'hui? Dans sa maison. C'est merveilleux. Louez le Seigneur. Et dans Romains 1, oui, Romains 1, à partir du verset 18, il est écrit aussi qu'il y a des gens qui, il y a des personnes, je lis le verset, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est l'expression du train de ce monde. La vérité est retenue injustement captive. Et dans tous les domaines religieux, comme il a été dit hier soir aussi, l'Église, ce n'est pas un enseignement particulier. C'est le désir du cœur de Dieu, c'est quelque chose de tout autre. Le salut n'est pas le but que nous voulons atteindre. Non, c'est un mensonge. Et moi-même, j'y ai cru pendant longtemps. Tu as ton salut, merveilleux, ok, hop, on coche et c'est bon, c'est réglé. Pendant des années, c'était ok, je suis sauvé. Et c'était tout, point. Et maintenant, nous pouvons vivre. Mais c'est un tel mensonge. C'est pas seulement le domaine mondain, mais c'est aussi tout le domaine religieux. Et c'est pourquoi il est saint, S-A-I-N, de toujours nous réduire à Christ et à l'Église. Christ seul et l'Église. Et plus que suffisant. Nous n'avons pas besoin de plus. Parce que quand le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur, les oreilles. Il veut nous illuminer les yeux de notre cœur. Il nous parle et il nous dit exactement ce dont nous avons besoin pour vivre par lui. Et néanmoins, je lis quelques versets dans Romains 1 qui nous montrent la nature de l'être humain. Ce sont des versets qui ne sont pas beaux, entre guillemets. On pourrait dire c'est, je ne sais pas comment dire, dramatique. Et néanmoins, c'est la vérité. Comme notre Seigneur décrit l'homme sans Dieu, comment Dieu voit l'homme sans Dieu et comment est l'homme sans Dieu. Dans Romains 1, au verset 29, il est dit jusqu'au 32, pour commettre. Alors, ils sont remplis. Il n'y a pas seulement une petite faute de frappe. Nous sommes vraiment bien. C'est aussi un mensonge de ce temps. Finalement, nous sommes tous bien. Il n'y a pas. Non, non. Là, on a plein. Ils sont pleins, pleins. Naturellement, dans Éphésiens. Dans Éphésiens, c'était des verbes au passé. Vous étiez, vous faisiez ceci, c'est le passé. Mais avant notre nouvelle naissance, nous étions. Oui, aussi, c'était aussi, nous étions aussi dans ce domaine. Peu importe comment nous le voyons, comment nous l'éprouvons, comment nous le ressentons, peu importe si cela n'a pas d'importance. Mais l'homme dit, Dieu dit, l'homme sans Dieu est plein de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, dépourvu d'affection naturelle, implacable, sans miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Et ça, c'est étonnant pour moi. Ouais. Les hommes n'admettront souvent pas ceci, mais le fait de sentir que c'est pas en ordre tout ça. Je pense long, beaucoup long, mais néanmoins, le verset continue, déclarant digne de mort, connaissant le jugement de Dieu, il déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ce sont des paroles dramatiques. Et néanmoins, je peux dire, louer le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés de ce domaine-là, de ce royaume-là. Savez-vous, frères et sœurs, ce que cela signifie? Je pense que parfois, nous n'arrivons même pas à le traduire en paroles, ce qui s'est passé. C'est que ce que le Seigneur a fait pour nous. Encore une fois, dans Romains 3, à partir du verset 10, selon ce qu'il est écrit, il est dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a aucun. Il n'y a nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Seigneur, ça c'est le but qu'a le Seigneur, c'est la vue qu'a le Seigneur sur l'homme déchu. Ce sont des versets qui sont vraiment dramatiques et qui montrent à quel point il est urgent que l'homme déchu, tombé, qu'il reçoive le Seigneur. Donc, on voit un peu plus loin, dans Éphésiens 2, il est dit, 2:12, vous étiez autrefois, selon le train de monde, il est dit, après, donc vous étiez sans Dieu dans le monde. Et c'est vraiment central que nous ne sachions pas seulement ces choses. Je sais que c'est écrit là, je l'ai déjà lu souvent. Mais savez-vous que si on reconnaît cela, ça va beaucoup plus profondément. J'aimerais vous faire connaître une situation du fait d'être sans espérance. Je vous raconte ce qui s'est passé d'un jeune homme. Il était mon collaborateur jusqu'à fin septembre. C'était vraiment un homme de vie. Un homme que vraiment, il vivait vite, pleinement, il essayait tout, il était partout, il participait à tout. N'est-ce pas le train de ce monde? Et il pensait que ça donnait du sens à sa vie. Et cette histoire de ce jeune homme a pris un tournant dramatique. Comme il est dit dans les versets d'Éphésiens, il y a un prince de la puissance de l'air. Et souvent, nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes même pas conscients. Et nous avons le titre, notre vie dans la servitude. C'est le titre. Vous souvenez-vous de ce temps? Bon, peut-être que nous en souvenons plus. Mais n'oublions jamais ce que le Seigneur a fait de bon. N'oublie pas les bienfaits, mon âme, des bontés de notre Seigneur, même si c'est dans un domaine qui est lié au passé. Le jeune homme, la question, il parle des convoitises de la chair. Il est allé trop loin, un peu trop loin, un pas trop loin. Il a aussi essayé le monde de drogue. Il était cool dans son groupe. Le soir, ils se retrouvaient. OK, il commence à prendre telle drogue. On essaye ci, on essaye cela. Et de lui, ce qui était un désir est devenu une addiction. Et alors que je le connaissais depuis de longues années, il vivait vraiment ainsi d'après le train de ce monde. Il a festoyé. Il a toujours festoyé. Il a tout pris, tout. Et néanmoins, il était vide. Sans espérance. Sans Dieu. Oui. Depuis, entre-temps, cet homme est mort. Il est mort il y a un mois. J'ai eu la possibilité de parler du Seigneur l'une ou l'autre fois. Je ne sais pas s'il a accepté ou pas. J'aimerais que ce soit ainsi, mais je ne sais pas s'il a accepté ou pas. Et savez-vous, ça, c'est le fait d'être sans espérance. Et ce monde n'a aucune espérance. Tu peux te remplir de tout ce que tu te vois. Tu peux prendre un carrousel après l'autre, un manège après l'autre. Et après, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ça, c'est vivre dans la servitude. Sans espérance, exclu, sans Dieu, dans le monde. Donc j'étais aussi chez mes parents, si j'ai bien compris. J'ai pris un café avec eux. Et la même, le fait d'être sans espérance est aussi en eux. Et c'est un drame. En fait, derrière, il y a des histoires personnelles qui sont écrites derrière ces versets. Nous aussi, nous étions morts dans le péché, dans les offenses et les péchés. Peu importe dans quelle profondeur nous étions. Mais louez le Seigneur. Nous sommes rendus libres. Rendus libres. Et pour nous, ce doit être vraiment... Nous devons être conscients que ce domaine du monde, d'un côté, il détruit l'homme aussi quand les hommes de ce monde l'éprouvent un peu différemment, le ressentent un peu différemment. Ah oui, prochaine fête, je veux y être. Et néanmoins, on remarque, cela détruit l'homme. Ça, c'est un domaine. L'autre domaine, c'est dans Romains 8, versets 7 et 8. Il nous faut avoir conscience de ceci, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et on a déjà vu un peu quelque chose dans Romains. Qu'est-ce que la chair? Donc, cette pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Et au verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et il est bon que ce verset aussi, nous le laissions inscrit profondément en nous. « Ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ceux qui vivent dans la chair. Et cela ne concerne pas seulement notre temps avant notre salut, mais concerne... nous concerne encore aujourd'hui ceux qui sont dans la chair. Si aujourd'hui je suis dans la chair, Dieu ne se réjouira pas de moi. C'est la vérité. C'est très, très sérieux et c'est central. Et savez-vous une chose? Notre Père nous a rendus libres. Lisons encore une fois Éphésiens 2. Les versets 4 et 5. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. 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 Par grâce que vous êtes sauvés. Savez-vous, j'apprécie à ces versets. Dieu a, ou Dieu a fait. Merci Seigneur, à cette place-là, il n'y a aucun honneur pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous glorifier. Cette œuvre seule, c'est le Père qui l'a accomplie. En unité avec son Fils, naturellement. Mais Dieu a, quoi qu'il nous ait vu, qui nous ait connu, quoi que le domaine de la chair ait été notre domaine, Dieu a. Parce qu'il est riche en miséricorde, à cause du grand amour, Dieu a. Quoi que nous soyons morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Loué le Seigneur. Il l'a. Dieu a fait cela. Il a. Par son Fils, il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a obtenu la rédemption. Son Fils a payé le prix pour nous. 1 Corinthiens 6, il est dit, vous avez été racheté un grand prix. Un prix élevé, un grand prix. Quel a été le prix? Notre, c'est le mot notre Père à cet endroit-là. C'est déjà, ce n'est pas une petite chose que nous puissions dire aujourd'hui, notre Père, c'est pas seulement Dieu a. Dans ce monde, beaucoup parlent de Dieu. Dieu a fait ceci, il a fait cela, là il y a un Dieu, là il y a... Non. Ce Dieu est notre Père, mon Père. Et quand je dis mon, j'espère que vous aussi, vous pouvez dire, c'est aussi mon Père, c'est notre Père. Et il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Pour nous, pour moi, pour toi. Oh Seigneur, nous devons être conscients de cela. Pour moi, Jésus a pris ce chemin. Et nous savons que cela coûtait tout à notre Seigneur. Tout. Si bien que nous, aujourd'hui, nous avons le droit d'être assis ici et dire notre Père. Ce sont quelques petits mots. Notre Père, notre Seigneur. Pour notre Seigneur, ça coûte tout coûté. Il a dû payer par son sang, avec son sang, pour mes péchés, pour mes transgressions, pour mon vieil être déchu. Le Seigneur a payé. Il y a des versets que nous... Je n'ai pas bien compris la référence. Je pense que c'est Philippiens 4, des versets 3 à 6. On va voir en entendant. Non, Tite, pardon. Voilà. Tite 3. Tite 3. 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Seigneur et son amour pour les hommes ont été manifestés, et il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Mais lorsqu'à la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour sont apparus, ont été manifestés. Amen. La bonté et son amour ont été manifestés. Bonté et amour de notre Dieu Sauveur. Louez le Seigneur pour un salut si grand. Le Seigneur a été prêt de prendre ce chemin si bien que cela il y ait pour nous ce chemin qui nous fasse sortir de la servitude. Et j'ai dit avant, et c'est aussi notre témoignage, que le Seigneur nous a rachetés, qu'il nous a sauvés. Et néanmoins, ce n'est que la moitié de la vérité. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. J'aimerais rajouter, le Seigneur nous a sauvés. Amen. Nous louons le Seigneur pour cela. Il nous a rachetés et il nous a libérés pour l'Église. Maintenant, il y a toute la vérité. Sauvé, racheté pour sa maison, pour l'édification de son Église. C'est pour cela qu'il a donné son Fils, pas seulement pour moi, pour mon bien, pas seulement que nous puissions quitter le domaine qu'on a vu avant, pas que d'une manière éthique nous puissions vivre dans un domaine moral éthique plus élevé. Non, c'est trop peu. Mais au travers de cette œuvre, il nous a aussi posé la pierre, le fondement pour cette édification. Et pour nous, chacun de nous, que jeune ou plus âgé, qui est né de nouveau, il est appelé à être bâti, à être amené dans l'édification de cette maison, de se donner. Et néanmoins, ça reste toujours encore un mystère pour beaucoup. Et il est encore caché pour beaucoup. Si bien que dans ce temps-ci, où nous utilisons ce temps présent maintenant pour que le Seigneur puisse écrire dans nos cœurs. Et pas qu'après nous rentrions après la conférence à la maison et nous commencions un nouveau thème dans les réunions. Ah, prenons voir l'épître de Timothée. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Non, 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 non. Le Seigneur n'est pas en train d'écrire pour cela. Je suis convaincue que tout ce qu'est le Seigneur aujourd'hui, tout ce qu'il fait aujourd'hui, tout ce riche approvisionnement de notre Seigneur, il a dit, il l'a répandu avec abondance. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui s'économise. Non, il ne fonctionne pas selon les arrosoirs plus ou moins remplis. Mais il est vraiment, il dispense richesse après richesse pour l'édification de sa maison, afin qu'il nous prépare pour l'œuvre du ministère, afin que nous soyons à la louange de la gloire, de sa gloire, que nous, aujourd'hui, nous soyons ceux qui témoignent de cette grande œuvre que nous verrons encore dans les prochaines réunions. C'est étonnant et tellement mystérieux. Et ce qui est merveilleux, nous sommes rendus vivants avec Christ. Vivants aujourd'hui, le titre est de la mort à la vie. Aujourd'hui, la vie est notre part. Et pas seulement la vie de ce jeune homme dont j'ai parlé auparavant. Mais c'est pas la vie dans ce monde qui n'est que mort. Ouais. Comme nous l'avons chanté ce matin, nous sommes morts et néanmoins nous vivons. Amen. C'est merveilleux. Avec Christ, ensemble, nous avons été rendus avec Christ dans Colossiens 2 au verset 13 et Colossiens 2. Vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie. Prenez-le pour vous-même. Nous le prenons pour nous-mêmes. Il m'a rendu à la vie. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. Et ce qui est très important encore à cet endroit-là, c'est pour ça que j'ai pris aussi ce verset. Il est dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Sans cela, cela n'aurait pas été possible. Toutes les offenses, tous les péchés ont dû être mis de côté. Dans ce domaine-là, avec le péché, notre Père ne peut pas avoir de communion avec nous. Avec la chair, avec le péché, ça ne va pas. C'est pour ça qu'il a versé son sang, pour justement mettre de côté. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit en clouant la croix. Verset 14. Et nous aussi, nous avons été, entre guillemets, terminés, finis. Quand nous parlons de vie, nous parlons aussi de notre mort. Ça va ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est contraire. Mais si nous, aujourd'hui, nous parlons de vie, alors nous parlons également du fait que nous sommes morts avec, enterrés avec lui dans sa mort, avec lui. Ça, c'est la base. Et comme il est sorti dans ce verset, tout est fait par ta grâce. Nous n'avons aucune part de notre côté, sauf le fait qu'à un moment donné, nous avons dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chacun de sa manière, à sa manière l'a dit, et il y a peut-être 100 histoires différentes ou que nous pourrions raconter. Ce que le Seigneur a fait en chacun de nous, en chacun de ceux qui acceptaient le Seigneur, son salut, son choix, est un tel privilège, frères et sœurs. Et néanmoins, pour moi, j'ai un fort fardeau de parler de cette liberté que nous avons aujourd'hui, que nous avons gagnée en fait. Nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la liberté. Nous avons été rendus libres, libérés, rendus libres, sauvés hors de tout esclavage. Si bien que le titre est « Notre vie dans la liberté ». Combien nous pouvons remercier le Seigneur de notre vie dans la liberté? C'est le titre B. Oui, et néanmoins, parfois, nous nous sentons tellement restreints, c'est vraiment intéressant. Notre Seigneur est différent. Je n'ai pas encore lu le petit livret, mais on a un livret dont le titre est « Christ et autres ». Autre que moi, et autre, comme la sœur a témoigné, parfois on attend quelque chose de très clair, le Seigneur devrait agir comme ça et comme ça, et louer le Seigneur, après il agit, mais autrement. Et il œuvre pour ce qu'il y a de mieux pour nous, il travaille pour notre salut, pour l'édification de l'Église. Combien notre Seigneur est autre. C'est merveilleux. Et l'épître aux Galates, c'était central pour moi aussi de lire ces versets dans Éphésiens. Il nous montre le domaine duquel nous sommes sortis et pour lequel nous louons le Seigneur. Il nous a libérés de toute cette chair, des convoitises, des querelles, de la désobéissance. Il y a tant de choses. Nous en sommes libérés. Encore une fois, nous sommes rendus libres, libérés, sortis, sauvés hors de tout cela. Et d'un coup, le frère parle à cet endroit-là d'une église qui a commencé en esprit. Ça a été notre début pour nous tous. Nous avons, après la nouvelle naissance, donc à la nouvelle naissance, nous avons commencé par l'esprit. Et néanmoins, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose. Il y avait un verset à Göppingen pendant longtemps que nous avions vu ce verset dans Actes 19. Il est dit que ceci est possible aussi. Donc, à 19, il est dit. Le verset 2. Dans une occasion où Paul arrive à Éphèse, et là, il parle à ses disciples, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Alors, comment ça? En fait, c'est normal, non? C'est pas évident? Cela ne fait pas partie de notre évangile, que quand le Seigneur nous sauve, nous rachète, qu'automatiquement nous recevons son esprit. Naturellement, mais oui. C'est ainsi. Et néanmoins, ici, il est dit, ils lui répondirent, nous n'avons pas, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et savez-vous une chose? Ce qui était intéressant pour nous, d'un autre côté dramatique, mais tous les frères et sœurs qui nous parlaient de leur, qui avaient vécu, les frères et sœurs nous ont parlé de leur expérience dans la chrétienté, des groupes nombreux qu'ils avaient vus, et c'est la première fois que nous entendons parler de l'œuvre de l'Esprit Saint, de l'œuvre qui rend la vie. Savez-vous où nous avons ceci? Nous l'avons entendu pour la première fois. Savez-vous où? Dans l'Église. Et pour beaucoup de frères et sœurs, cela signifie 20 ans, 30 ans de ne pas avoir de réponse à cette question. Et maintenant, comment marche un tel chrétien? Quelle possibilité un chrétien qui ne connaît pas ceci peut-il vivre exactement dans ce qui est écrit dans Galates, Galates 5, au verset 1? Il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et aussi cette libération, chacun d'entre nous l'a vécu. Le Seigneur nous a sauvés, rachetés par son sang. Et il nous a libérés, nous a affranchis. Et néanmoins, Paul parle ici à une église. C'est pas le. Il ne regarde pas dans le monde. Le monde ne peut marcher que d'après la chair. Le monde marche selon la chair, marche dans la chair et saturé de la nature, de l'ennemi. Oui. Mais ici, il est dit, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Aïe. Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a enfranchis. Nous avons déjà loué le Seigneur ce matin. Oui, exactement pour cela, qui nous a libérés. Et là, Paul doit leur dire, mais ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de ce domaine duquel le Seigneur t'a fait sortir. Tu vas dire, mais ça n'existe pas cela. Mais comment est-ce possible cela? Une fois de plus, dans Galates 5 au verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Frères et sœurs, c'est notre appel à la liberté, à la liberté de l'esprit. Et encore une fois, et seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Les verses montrent clairement qu'il est possible que le Seigneur peut avoir un début très fort avec nous. Et hier, vous avez sûrement écouté aussi, le frère nous en a témoigné, c'est parfois dramatique de voir comme au travers des années, des frères ont combattu, ont vu l'Église, ont combattu pour l'Église et d'un coup s'en détournent et amènent même un combat contre l'Église. Comment est-ce possible? Et c'est une question que je me posais toujours encore quand j'étais un jeune frère. Quelle est notre protection? Mais comment est-ce possible de courir la course jusqu'à la fin sans que je ne me sois dévié en cours de route? Et c'est pour ça que j'ai repris encore les versets concernant le salut. Et il faut que vous le lisiez de manière consciente. Il y a toujours ce regard en arrière. Il y a toujours ce regard d'où tu viens. Et regarde qui était celui qui t'avait sauvé. Ou qui t'a sauvé, pardon. Et ce n'est pas ton bon être naturel, ce ne sont pas tes capacités, ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose, mais seule la grâce de notre Seigneur, parce qu'il nous a aimés. Et savez-vous, notre marche continue de la même manière. Nous sommes sauvés par la grâce. Et Paul dit aussi à un endroit, peut-être dans un autre contexte, mais je trouve ces paroles très précieuses. Par sa grâce, je suis ce que je suis. Est-ce notre témoignage? Pensez-vous que vous soyez capable de courir la course jusqu'à la fin, jusqu'au but? Pensez-vous que vous êtes capable de garder le bon dépôt? Êtes-vous capable de garder votre cœur? Savez-vous, notre victoire, c'est que nous connaissons celui qui est capable. Ça fait maintenant, depuis la conférence d'été, que ce verset ne me laisse pas et il reste dans ma tête. 2 Timothée 1, verset 12. Lisons-le ensemble. Il est bon de laisser habiter la parole richement en nous et de tenir fermement cette parole. 2 Timothée 1, le verset 12. Amen. Amen. Disons-le ensemble. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen.
Amen.
Ça, c'est notre seule assurance que nous avons, que nous connaissons celui, nous croyons en lui, lui qui est capable de garder le bon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et néanmoins, c'est un combat. On en a déjà parlé. C'est un combat qui continue. Ce bon dépôt est... Il y a une lutte pour cela. Ce n'est pas une petite chose. Nous parlons du trésor dans le cœur de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux qui existe dans cet univers. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais précieux, il n'y a qu'une seule chose. C'est Christ et son Église. Amen. Et cela est vraiment combattu. Et ce combat va jusque dans notre propre cœur, jusqu'à notre vie quotidienne. Dieu témoigne qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et cela reste, et comme je l'ai dit avant, notre vie est en Christ. Nous vivons et sommes néanmoins morts. Et vous connaissez tous ce verset, j'en suis convaincu. Et au baptême, on chante aussi un chant parlant de ceci. C'est la solution pour ce combat que nous devons combattre. Le combat de la chair contre l'esprit, de l'esprit contre la chair, que nous témoignons toujours à nouveau, je suis crucifié avec Christ, c'est notre victoire. Nous sommes crucifiés avec Christ et dans le champ, et ce n'est plus moi qui vis, continue ainsi le chant, mais Christ qui vit en moi. Amen. Christ vit en moi. Et au dernier passage, j'ai toujours à nouveveau réfléchi comment être vivons-nous de Christ, vivons-nous en Christ, vivons-nous par Christ, vit-il en nous? Alors, qu'en est-il vraiment? Oubliez ceci. Aussi longtemps que nous avons ce témoignage en nous, je vis aujourd'hui par le Seigneur et ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis. Dans l'Église, il ne s'agit plus de nous. Pourquoi sommes-nous ici?
Parce que le Seigneur nous
Par le Seigneur nous a révélé quelque chose du désir de son cœur et que nous avons tous cette aspiration de saisir encore plus ce Seigneur, qu'il nous donne vraiment cet esprit de sagesse et de révélation pour le saisir pleinement. N'est-ce pas notre désir? C'est notre désir. Et pour cela, nous donnons également notre temps. Peut-être c'est un temps éprouvant, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'invités, il faut faire ci, il faut faire tout cela. Il y a beaucoup de choses qui sont concernées, mais ne vous laissez pas détourner par toutes ces choses. Mais recontemplez-le, voyez-le, regardez à lui et détournez votre regard de vous-même. Nous sommes crucifiés avec Christ, c'est notre victoire qu'il a obtenue pour nous. Et quand Paul, toujours à nouveau dit dans Corinthiens, la croix est une folie pour ceux qui sont loin à la perdition. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est la puissance de Dieu. C'est notre victoire. C'est l'assurance que lui est celui qui est capable. Et hier aussi, on a entendu un peu dans la prière ceci. Que faisons-nous dans la prière? Que faisons-nous d'autre que de chercher le Seigneur? C'est exactement ce domaine dans lequel nous pouvons dire, Seigneur, non plus moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour cette situation, pour ce moment-là, pour cette situation dans la famille, dans l'église, là, dans toutes les situations, nous cherchons le Seigneur, parce que ce n'est plus nous qui cherchons. Je ne suis pas capable et je ne deviendrai pas plus capable. Ce n'est pas qu'après 30 ou 40 ou 50 ans, on pourrait penser que le Seigneur, que notre chair devient utilisable. Non, non. Le seul qui soit utilisable, entre guillemets, en nous, c'est le Seigneur, c'est sa vie. C'est un tel privilège. Oui. Et donc, le dernier passage, nous le contemplerons, nous le verrons simplement dans la communion. Nous verrons ensemble quel est ce privilège d'être en lui aujourd'hui, de vivre en lui. Nous le regardons ensemble, pourrons le voir ensemble dans la communion par la suite, et nous lui rendons gloire et honneur pour ce temps. Et je redis, ce n'est pas une petite chose. S'il vous plaît, ne méprisez pas le fait que nous puissions nous rencontrer pour louer le Seigneur et quand le Seigneur nous parle. Amen. Fin du message. Amen.